VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Tchad, les candidats malheureux à la présidentielle du 10 avril tirent à boulets rouges contre l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Lors d'une conférence de presse ce jeudi 12 mai, ils ont accusé l'ANS d'être le bras armé du pouvoir chargé de réprimer le peuple tchadien. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Ces candidats malheureux imputent la responsabilité des arrestations et intimidations dont sont victimes leurs militants au lendemain de l'élection présidentielle à l'ANS, Agence nationale de sécurité. Son omniprésence et son rôle principal dans la répression et certaines de ses actions relèvent, selon l'opposition, de la pire mafia.
L'ANS fait du renseignement, mais remplace lorsque besoin est le procureur, le douanier et souvent le juge. Il était temps que l'on s'intéressât à l'ANS pour défendre nos libertés et la démocratie dans notre pays.
Gali Katangote, président de l'UFDR, Union des Forces Démocratiques, Parti Républicain. Le dernier acte posé par l'ANS qui a occasionné cette sortie médiatique, selon lui, est la manifestation des élèves de Léré et de Tchikem, deux départements situés au sud du Tchad, le 5 mai 2016, date à laquelle l'opposition démocratique avait appelé à la journée ville morte pour protester contre les résultats définitifs de cette élection proclamée par le Conseil constitutionnel.
À Tchikem, les élèves auraient descendu un vieux drapeau dans leur cour, dont la partie rouge du tricolore aurait presque disparu. Ils auraient dit, je cite, « Le changement commencera par le drapeau de notre école ». Par cette blague, quelques élèves et deux professeurs ont été arrêtés par l'ANS sous le fallacieux prétexte, je cite, offense au drapeau national.
Pour Saleh Kib Zabo, chef de file de l'opposition, l'ANS est le bras armé du pouvoir qui n'est pas différent de la DDS, direction de la documentation et de la sécurité sous le régime de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré.
L'ANS est l'héritière de la DDS. L'ANS qui aujourd'hui est devenu principalement le bras armé du pouvoir et c'est celui qui régente tout, même dans les affaires politiques. De politique politicienne ou politique pure, vous allez retrouver l'ANS. Est-ce qu'il faut arrêter un citoyen illégalement, l'ANS est là pour le faire. Est-ce qu'il faut tuer ? Là aussi, je pense que l'ANS n'est pas absente. Pourquoi l'ANS a-t-elle pris tant d'importance sous le régime de Idriss Déby ?
Gali Katangote demande à la population de réunir les preuves des actes posés par les agents de l'ANS pour en constituer des banques de données.
L'ANS, agissant hors cadre légal, est illégal et illégitime. C'est pourquoi nous en appelons à tous les citoyens à constituer des banques de données sur les agents, leurs crimes et délits. Ces dossiers serviront à la constitution des plaintes pour que les disparus, les handicapés et les morts ne restent pas impunis, comme ce fut le cas de la DDS.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Toujours concernant le Tchad, la France a appelé les autorités tchadiennes à faire toute la lumière sur des disparitions présumées de militaires suite à la présidentielle du 10 avril remportée par Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans. En Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni, réélu au mois de février, a prêté serment aujourd'hui en présence de nombreux chefs d'État africains, notamment le tchadien Idriss Déby Itno. Hier, la police avait interpellé l'opposant et candidat malheureux Kizza Besigye, qui avait organisé sa propre prestation de serment à Kampala. Nani Talani.
Arrivé au pouvoir par coup d'État en 1986, Yoweri Museveni, qui est âgé de 71 ans, entame son cinquième mandat. La commission électorale ougandaise l'avait proclamé vainqueur de la présidentielle de février avec 60% des voix contre 35% à son adversaire Kizza Besigye, leader du Forum pour le changement démocratique, des résultats que ce dernier a rejetés, faisant état de fraude massive. Depuis lors, la police a dispersé plusieurs manifestations de ses partisans, la dernière mercredi, au cours de laquelle Besigye s'est fait investir président.
En République démocratique du Congo, l'UDPS d'opposition a qualifié jeudi d'imposture l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester à la tête du pays à la fin de son mandat en décembre si un président élu n'est pas prêt pour lui succéder. Au Comores, le colonel Azali Assoumani Expucci a été élu président à l'issue d'un scrutin partiel mercredi dans 13 bureaux de vote à Anjouan, où le second tour de la présidentielle avait été entaché de violence. C'est ce qu'indiquent les résultats provisoires rendus publics aujourd'hui par Nadjaré Alaoui, vice-présidente de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle comorienne, qui peut être saisie de recours, a 5 jours pour proclamer les résultats définitifs. Le nouveau président doit être invité ici le 26 mai.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Centrafrique, le président français François Hollande se rend demain à Bangui pour une visite de quelques heures. Il compte réaffirmer le soutien de la France à la reconstruction du pays après une phase d'engagement militaire. L'opération française Sangaris, en cours depuis fin 2013, doit se terminer en décembre, mais des militaires français doivent rester sur place et être redéployés au sein de la mission onusienne MINUSCA et la mission européenne dédiée à la formation des FACA, les forces armées centrafricaines. Le nombre des militaires français engagés en RCA dépendra des contributions des 27 autres pays de l'Union européenne. Après sa visite de mai à Bangui, le président François Hollande se rendra à Abuja, au Nigeria, pour participer samedi à un sommet régional sur la sécurité consacré à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Y participeront non seulement les présidents du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, pays où se déroulent des combats dans la région du lac Tchad, mais aussi les leaders du Bénin, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Sénégal et Togo. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Chine sont également invités à la réunion. Et au Nigeria même, au moins 2 morts, tel est le bilan d'une explosion aujourd'hui devant le siège du gouvernement régional à Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est, fief historique du groupe islamiste Boko Haram. La déflagration s'est produite sur un véhicule triporteur qui passait dans la rue et le bâtiment officiel n'était peut-être pas la cible visée selon des témoins oculaires. Pour sa part, un représentant de l'hôpital de l'État de Borno dit que son établissement a reçu 2 morts et 24 blessés. Attaque terroriste au Mali, le chef adjoint de la région militaire de Garo dans le nord et un frère d'armes ont été tués mercredi lorsque leur escorte militaire est tombée dans une embuscade sur l'axe Gossi-Ombori au sud-ouest de Garo, la plus grande ville du nord malien. Les précisions de notre correspondant Bamako, Kassim Traoré.
C'est au cours d'une de ces escortes traditionnelles qu'un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade, quelques minutes seulement après avoir quitté Gossi pour Ombori. L'un des véhicules de l'armée malienne a même sauté sur une mine. C'est dans ce véhicule que se trouvait le colonel Salif Babadao de la garde nationale, lui qui avait quitté Bamako le mercredi 11 mai 2016 pour Gao. Le bilan est de 2 morts du côté des militaires maliens. Tous les blessés ont été évacués sur Gao pour suivre des soins intenses. Les assaillants qui ont commis ce forfait étaient tous sur des motos dans une course engagée aux côtés du convoi. Le dit convoi a également essuyé des tirs. Aucune identité des assaillants n'a été connue, mais l'armée malienne continue de mener des investigations. A rappelé que dans la nuit du lundi au mardi, c'est un autre camp de l'armée malienne qui a été attaqué à Bamba, dans la région de Gao. Un militaire et un assaillant ont été tués. Les assaillants voulaient s'emparer des armements des soldats maliens, mais ils sont repartis bredouille. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La réconciliation en Côte d'Ivoire maintenant, la ministre ivoirienne de la cohésion sociale, Maria Toukoné, est en visite au Ghana depuis hier. Elle veut rassurer des milliers d'exilés pro-Bagbo et les exhorter à rentrer au pays natal. Maïli Segal.
Avant le Ghana, la ministre ivoirienne Maria Toukoné avait séjourné du 3 au 7 mai au Libéria, qui accueille des milliers de réfugiés ivoiriens depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Elle a expliqué qu'elle vient dire à ses frères qu'ils ne risquent rien à leur retour en Côte d'Ivoire. Il y a environ 58 000 réfugiés ivoiriens au Libéria et près de 10 000 au Ghana, pour la plupart des exilés politiques. Leur retour est devenu un enjeu pour la réconciliation nationale si chère au président Alassane Ouattara. Le 11 avril, au Ghana, la mort en exil de l'homme politique Mamadou Ben Soumaoro avait suscité une vive émotion, poussant le gouvernement à faire plus d'efforts. Le mois dernier, Mgr Siméon Awana, président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, avait tiré la sonnette d'alarme, disant que le malaise est profond et qu'il convient de mettre un accent particulier sur les initiatives en faveur de la réconciliation.
En Libye, 4 membres des forces loyales au gouvernement d'Union nationale ont été tués, 24 blessés dans 2 attaques simultanées du groupe État islamique hier soir à l'est de Tripoli. Était visé le poste de contrôle militaire de Sadada, localité aux mains du gouvernement d'Union nationale à 100 km au sud de Misrata. Par ailleurs, les autorités libyennes confirment aujourd'hui la prise de la localité stratégique d'Abu Ghraib par l'EI la semaine dernière. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.